Bonjour. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Gérard Klein pendant une heure de rencontre qui va nous permettre de mieux vous connaître. Gérard Klein, vous venez de recevoir le prix extraordinaire des Utopiales. Je ne sais pas si vous étiez là hier soir. Ça a été un des grands moments de cette remise des prix du festival. Et nous savons tous quelle place extraordinaire vous avez dans la science-fiction, dont vous êtes un fondateur et un acteur essentiel en France. Mais nous ne savons pas tout à votre sujet. Je ne pense pas que nous saurons tout à l'issue de cette heure, mais nous en saurons peut-être un petit peu plus. Vos vies parallèles et multiples sont tellement riches que je me suis demandé comment mener cet entretien. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il était impossible de parler de vos différentes facettes et de vos activités sous un angle chronologique, parce qu'on aurait parlé de beaucoup trop de choses en même temps et dans tous les sens. Donc, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, je vous propose que nous rencontrions successivement différents personnages. Peut-être dans un premier temps l'économiste, l'homme qui a eu une vie professionnelle intense, qui a évolué progressivement vers la prospective, puis l'auteur, ou les auteurs, parce que même là, il y en a plusieurs, puis l'éditeur, et puis, en fin de compte, nous referons appel aux prospectivistes. Excusez-moi si je bafouille, je suis très impressionnée, c'est vrai, même si nous nous connaissons depuis longtemps, et vous comprendrez mon émotion, là j'avais envie de... J'ai trouvé un site français qui évoquait votre impressionnant charisme et votre sourcilleux caractère. Donc, vous comprendrez que je suis dans mes petits souliers. Alors, Gérard Klein, vous avez, si l'on commence avec vos études, vous avez commencé par un bac en philosophie et vous avez été diplômé de l'Institut d'études politiques en économie à l'âge de 20 ans. Diplômé en psychologie sociale à la Sorbonne à 22 ans.
C'est un peu plus compliqué que ça, parce que à l'Institut de psychologie de la Sorbonne, où je me suis inscrit après Sciences Po, où j'ai fait d'ailleurs après mon diplôme à Sciences Po une quatrième année, qui a maintenant été incorporée, qui était exploratoire à l'époque, qui correspondait un peu à... Je
pense, est-ce que tout le monde entend bien ?
Oui, vous m'entendez ? Oui ? Bon. J'ai après cette quatrième année à Sciences Po, qui était un peu un complément, ça s'appelait vie des affaires ou je ne sais quoi, je me suis inscrit donc à l'Institut de psychologie de la Sorbonne, où j'ai fait en 2 ans, je crois d'abord, enfin en 1 an ou 2 ans, puisque j'avais déjà un diplôme d'études supérieures, les débuts. Et puis, je me suis inscrit en 2 diplômes, le diplôme de psychologie appliquée et le diplôme de psychologie sociale. Alors, si j'ai bien passé l'examen et eu le diplôme de psychologie appliquée, je ne suis pas allé, parce que pour des raisons de fatigue, etc., passer l'examen de psychologie sociale... parce que j'en avais un peu marre. Cela étant, j'étais probablement bien meilleur en psychologie sociale qu'en psychologie appliquée. Donc, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai la compétence.
On ne vous en voudra pas. Mais après ces études qui démarrent très fort, tout de suite après, vous êtes mobilisé pour aller en Algérie pendant 2 ans, faire un service militaire, qui est une période dure, qui va peut-être un peu changer votre vision du monde et de l'avenir. Est-ce que vous voulez qu'on en dise un mot maintenant de cette période ?
Oui, je veux bien en dire un mot, parce qu'en un certain sens, ça a été aussi pour moi un complément de formation, si j'ose dire. Complément de formation un peu spécial, mais d'autant plus spécial qu'initialement, je n'étais pas destiné à aller en Algérie. Mais compte tenu de mon pédigré, comme j'appartenais à l'armée de l'air, je devais aller dans un service de recherche à Fontainebleau, ce qui était probablement plus tranquille. J'ai été désigné pour aller en Algérie, ce qui fait que quand je me suis retrouvé d'ailleurs à Alger dans un service de psychologie, c'était de la sélection, rien à voir avec l'action psychologique. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous devriez être à Fontainebleau. Elle m'a dit, qu'à cela ne tienne, je prends l'avion quand vous faites ça. Elle m'a dit, ah oui, mais non, mais vous seriez officier, vous pourriez, mais vous êtes deuxième classe, donc c'est pas possible. Donc je suis resté en Algérie, où j'ai passé 2 ans. D'abord à faire justement de la sélection d'appelés. Je dépendais de l'état-major R, à faire de la sélection d'appelés, ce qui m'a permis de circuler pas mal dans l'Algérie, ce qui était intéressant. Bon, alors on leur faisait passer des tests, on ramassait les tests, on notait les tests, et puis on mettait tout ça dans un beau dossier. Enfin, ce qui était intéressant surtout, c'est que ça me donnait une certaine mobilité. D'autre part, j'ai vécu, enfin évidemment pour vous c'est de l'histoire ancienne, mais de très près le putsch d'avril 1961, quand les 4 généraux félons, qui devaient, enfin, pour 3 d'entre eux au moins, fonder par la suite l'OAS, et ça c'est une autre histoire, donc on lançait un putsch, de façon à essayer de contrer les efforts, enfin déjà très avancés à ce moment-là, du général de Gaulle pour mettre enfin fin à cette guerre stupide. Et j'avais l'avantage de, étant justement à l'époque deuxième classe, rassurez-vous, je suis monté rapidement en grade, j'ai fini sergent-chef. Mais j'ai eu la possibilité de circuler dans Alger, alors que si j'avais été comme un invisible. Et donc, de voir de très près ce qui s'est passé, en particulier le déplacement des unités de parachutistes soulevés, enfin, et le déplacement des unités de gendarmes quand ils ont commencé à se retirer au bout de 4 jours, qu'ils les suivaient à 10 minutes. Il n'y a jamais eu de contact direct, fort heureusement. Et je crois qu'on le doit à la grande sagesse du général Charles, à qui on avait confié initialement le commandement des opérations du putsch, mais qui a vite compris que ça menait à rien, et a tout arrêté, a tout calmé. Bon, alors ça, il y a eu quelques morts, mais enfin, ça aurait pu être un bain de sang absolument épouvantable. Ça n'a pas été. Alors après, bon, après, on a tous été expédiés dans un immense camp fortifié, plutôt pour protéger et empêcher toute tentation putschiste, qui s'appelait le camp de la Regaïa. Et de là, je suis sorti parce que il y avait un organisme qui s'appelait la radio militaire, et quand ils ont découvert que j'étais capable d'écrire quelques lignes, je m'y suis retrouvé assez rapidement, et ça m'a énormément aéré. Et en même temps, j'ai très vite travaillé d'un côté pour la radio militaire, de l'autre côté pour la radio civile, où les, comment dirais-je, les vocations se faisaient de plus en plus rares. On a fini, je crois qu'on était 4. Alors tout ça me donnait une très grande liberté de mouvement dans un monde chaotique, souvent effrayant, où avec les assassinats, j'en ai vu je ne sais pas combien, et les explosions provoquées par l'OAS, donc dans cette année, surtout au printemps, enfin dans cette année 1962, c'était assez tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, donc, alors je circulais un peu partout, je suis allé dans le Grand Sud, où il ne se passait strictement rien, c'était d'ailleurs un peu une façon de me mettre au repos. Je suis allé faire des interviews là-bas, enfin, c'était un prétexte, parce que j'étais un peu fatigué par tout le reste, donc on m'a envoyé pour quelques semaines. Je suis allé jusqu'à Adrar, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais alors j'ai rencontré en même temps en Algérie des gens absolument extraordinaires, des gens à l'université, et puis surtout un homme qui a joué un rôle considérable dans l'histoire culturelle algérienne, Edmond Charlot. Edmond Charlot était un libraire, mais c'était aussi un éditeur. C'était un homme d'une humanité, d'une affabilité, d'une culture extraordinaire. j'ai eu la chance de le rencontrer et de devenir un ami, si bien qu'il m'a souvent hébergé. J'étais obligé, pour des raisons variées, de temps en temps changer de piaule. Certains d'entre vous ont peut-être connu ce genre de choses. Et donc, alors Edmond Charlot avait été le premier éditeur de Camus, et c'était aussi un pont entre les Français d'Algérie et les Algériens. Il avait été l'éditeur de Mouloud Feraoun, qui a été assassiné par l'OAS, et de bien d'autres écrivains algériens. J'ai donc pu voir se constituer quelque chose d'extrêmement intéressant, qui d'une certaine manière perdure, qui est une culture, une très forte culture, une culture passionnante, hybride, hein, franco-algérienne. Bon, évidemment, à la fin de la guerre d'Algérie, l'émigration forcée des pieds noirs, de ce qu'on appelait les pieds noirs, a mis un terme au développement de cette acculturation réciproque. C'est certainement un grand dommage, mais enfin elle continue, puisqu'il y a un assez grand nombre d'écrivains algériens qui écrivent en français, ou bien d'écrivains algériens écrivant en arabe, qui sont traduits. On a peut-être un peu trop oublié, à mon goût au moins, le nom de cet homme paisible, modeste, affable, et qui, à mes yeux, a joué un très 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 grand rôle dans le maintien d'un lien entre les deux communautés. Je l'ai retrouvé après au Maroc, puis il est allé à Izmir, en Turquie, enfin s'occuper de centres culturels. Enfin, c'était un homme exceptionnel.
Et on voit tout de suite à quel point vos différentes vies s'entrecroisent très tôt, prennent leurs racines dans différentes circonstances. Au bout de 2 ans plus tard, en 1963, vous revenez en France, vous intégrez la filiale...
Je suis rentré en France en novembre 1962. Enfin 62, et j'ai intégré la CEDES, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, en mai 1963.
Où vous restez jusqu'en 1976, et où vous êtes tout de suite, très vite, un éminent économiste, puisque c'est vous qui publiez un ouvrage qui fait référence, qui s'appelle « L'épargne des ménages ».
Il s'est passé la chose suivante. Quand je suis arrivé à la CEDES, comme je suis franc à rien et bon à tout, j'ai commencé par travailler sur quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, qui était l'économie de l'urbanisme. La France était largement, je ne dirais pas en reconstruction, pas dans les années 60, mais en construction à la suite de l'émigration très importante des campagnes vers les villes moyennes et les villes moyennes vers les grandes villes. C'est aussi le moment où la Caisse des dépôts a construit, alors avec de bonnes intentions et des résultats plus discutables, de grands ensembles, de façon à liquider les énormes bidonvilles enfin, qui existaient aux alentours des grandes villes et en particulier de Paris. Donc je me suis occupé un temps d'économie de l'urbanisme. Puis comme la vocation principale de la Caisse des dépôts et consignations étant de réunir l'épargne qui est collectée, qui était collectée par les différents réseaux d'épargne, les caisses d'épargne dites privées et la Caisse nationale d'épargne qui relevait de la Poste, on m'a demandé de bien vouloir m'intéresser à l'épargne. Alors, je n'étais pas fanat de cette idée, ça me paraissait un peu ennuyeux, mais enfin, comme toujours, j'ai découvert à l'étude que ça pouvait être tout à fait passionnant. Alors, c'est dans ce cadre qu'on m'a prié d'écrire, avec un collaborateur, un ouvrage sur l'économie de l'épargne, un petit ouvrage qui est paru au Presse universitaire de France en 1970, je crois, et qui est probablement dépassé par l'état de la science.
Mais qui, quand même, a conduit à poser les bases de ce qui serait le plan épargne-logement.
Alors ça, c'est autre chose. C'est à peu près en même temps. En 1900, un produit financier avait été créé sur un coin de table par un énarque quelques années auparavant. C'était le livret d'épargne-logement. Le problème, c'est qu'il avait été créé dans un moment d'inspiration un peu rapide, et qu'au bout de 4 ans, il était en train de s'effondrer financièrement. C'est-à-dire que les dépôts ne suffisaient pas à couvrir les demandes de prêts qui avaient été promis, etc. Alors, on m'a demandé à ce moment-là de bien vouloir étudier une solution, c'est-à-dire un autre produit financier sur lequel le livret d'épargne logement pourrait s'appuyer. Et j'ai eu carte blanche pendant 6 mois, je crois que c'était en 1969, j'avais une grosse équipe pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc on a fait des enquêtes, tout système d'enquête, les enquêtes non directives, puis après les enquêtes quantitatives, et patati et patata. Et ça m'a amené à concevoir le plan d'épargne logement, qui je crois n'était pas trop mal conçu, parce qu'il existe toujours, même si, à mon sens, il aurait dû être supprimé depuis longtemps, parce qu'il n'a, enfin, il n'a plus aucune utilité. Alors, ça vaut quand même la peine d'essayer de comprendre, même si l'économie ne vous passionne pas, comment c'était conçu et pourquoi. L'idée, c'était qu'une épargne, nous étions dans une période de très grande inflation, de très forte inflation. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais ça pouvait dépasser les 10% par an. Si bien que l'épargne des particuliers, ce qu'on appelle l'épargne des ménages chez les experts, avait tendance à fondre plus vite qu'il ne pouvait la constituer. Donc l'idée, c'était de garantir cette épargne en lui donnant, en l'assortissant d'un taux à peu près convenable, et de le fournir ensuite un prêt dont le taux serait lié à celui qui avait été servi à l'épargne, quelle que soit l'inflation, donc indifférent à l'inflation. Donc les gens au moins ne perdaient pas le revenu de leur épargne. Il y avait un autre problème, c'était qu'on construisait, mais la demande de logement, le même problème d'ailleurs se pose à mon avis aujourd'hui, mais on ne me consulte plus, la demande de logement était très forte, mais c'est dans la mesure où il n'y avait pas la production. L'idée était d'essayer d'amener les ménages à retarder leur décision. Donc on leur proposait un produit financièrement avantageux, bien équilibré, qui au bout de 4 ans leur donnait des droits. Pendant ces 4 ans, on pouvait espérer que la caisse de dépôt et les promoteurs privés parviendraient à satisfaire la demande. Donc c'était les deux grands axes, c'était ça, protéger l'épargne et donner du temps aux promoteurs. Bon, je crois que ça n'a pas trop mal marché, mais aujourd'hui ça n'a plus aucun sens parce que les taux pratiqués par les banques sont très inférieurs à celui du plan d'épargne logement, et cette histoire de 4 ans, enfin, il faut remanier tout ça. Alors ça continue et c'est devenu complètement pervers, le plan d'épargne logement, excuserai de le dire, parce que c'est devenu sûrement, purement un instrument de placement. Le taux est confortable, il doit être de l'ordre de 2,5 ou 3%, alors que le livret A, dont je me suis beaucoup occupé aussi, rapporte 0,75%. Donc c'est devenu un produit de placement, alors que ce n'est pas du tout l'esprit, ce n'est pas du tout fait pour ça. Bon, passons.
Je vous avais dit qu'on avait 15 personnes à interviewer dans une même table ronde. Nous venons d'entendre l'économiste. Vous avez pu mesurer à quel point il est enthousiaste et passionné et connaisseur et qu'il a mené toute une vie professionnelle. Je lui ai proposé de s'exprimer en premier à l'économiste, parce que je sais que dans nos milieux, c'est pas en tant qu'économiste que vous avez eu le prix extraordinaire des Utopiales 2016, et ce sont plutôt vos activités autour de la littérature qui sont connues et qui sont valorisées. Donc il est quand même temps qu'on en parle, et je vous propose de commencer par Gérard Klein, auteur. Alors l'auteur, en fait, il apparaît très vite, puisque, si je ne me trompe pas, vos premières nouvelles sont parues dans des revues comme Galaxie et Fiction, les deux principales revues françaises de l'époque, quand vous aviez 18 ans, c'est-à-dire très jeune.
Oui, ma première nouvelle est parue, je crois, en octobre 1955 dans Galaxie. J'étais j'étais déjà en contact avec... Et attendez, cette nouvelle, je l'avais écrite au moins un an avant. Mais j'étais déjà en contact avec Maurice Renaud, qui était le créateur et le directeur de la revue Fiction, qui m'avait mis lui-même en contact avec Alain Doré-Mieux. Et la parution de ma nouvelle dans Galaxy a brusquement ouvert les portes de Fiction, où j'ai commencé à publier, je pense l'année suivante, en 1956 ou 1957, des nouvelles et des critiques, des articles. J'avais déjà le vice du commentaire.
Oui, alors parmi les auteurs qu'on va rencontrer, il y a l'auteur Gérard Klein. Mais il y a d'autres auteurs qui se cachent juste derrière. Il y a l'auteur Gilles Dargire, qui a surtout publié Au Fleuve Noir en parallèle avec Gérard Klein. Et puis il y a l'auteur qui porte le même nom, qui a écrit des essais, des préfaces, qui sont très significatives aussi. On peut peut-être commencer par l'activité littéraire de l'auteur de nouvelles qui plus tard ont été réunies en recueil et de romans en parallèle. Alors il y a beaucoup de choses à citer, mais il y a quand même Le Gambit des étoiles, dont je pense qu'il faudra qu'on dise un mot, et je cite tout de suite quelques titres. Le temps n'a pas d'odeur, un roman paru en 63, je crois.
Ça, c'est bien après, c'était la fin de ma carrière.
Moi, j'ai 63 dans mes notes.
Oui, c'est pour ça.
J'ai des tas de choses qui apparaissent après. Mais Gérard Klein est un auteur qui aime réfléchir à sa production et la faire évoluer. C'est-à-dire que je crois qu'il vous est arrivé souvent de reprendre des textes, d'une part de les éclairer par des préfaces, par des commentaires qui les remettent dans un contexte contemporain, et peut-être aussi de les réécrire. Celle dont il faut absolument qu'on dise un mot, c'est le roman Le Sceptre du Hasard, et Les Seigneurs de la Guerre, il y en a beaucoup.
Alors, c'est deux éditeurs différents et deux époques un peu différentes. J'ai d'abord publié un roman dans la collection Le Rayon Fantastique, Le Gambit des Étoiles. Alors, c'est un roman que j'avais écrit quand j'avais 18-19 ans. Qui a été accepté très rapidement, mais qui a donné lieu à un pataquès amusant. Georges Gallet, qui dirigeait à l'époque le Rayon Fantastique, avait attribué d'autorité le prix Jules Verne, le premier prix Jules Verne de cette année-là, à un autre livre. Qui avait été écrit par des journalistes, qui étaient d'ailleurs des amis à lui. Bon, et moi, j'arrivais là-dedans. Or, le jury a lu les deux romans et il s'est insurgé contre la décision de Gallet. Mais seulement Gallet avait déjà fait imprimer le bouquin, il avait déjà fait imprimer les bandes prix Jules Verne pour l'autre bouquin, etc. Alors, si bien que j'ai eu la chance d'avoir exactement les mêmes avantages, sauf la bande prix Jules Verne, que le récipiendaire du prix. Enfin, j'ai même déjeuné avec les membres du jury. Enfin, c'est une première grande époque. À peu près à la même époque, je publie mon premier recueil de nouvelles chez De Noël, Les Perles du Temps. C'était des nouvelles qui étaient pour partie, pas toutes, mais parues précédemment dans Fiction.
1958, hein, je crois, les deux.
Oui, les deux livres sont parus la même année. Le Rayon Fantastique a publié Le Gambier de Tours en 1958, et puis Les Perles du Temps chez De Noël, qui était dirigé à l'époque par Conters, également en 1958. Alors, parallèlement, et pour des raisons en partie alimentaires, pas uniquement, cédant à l'influence, en tout cas imitant un peu mon ami Kurt Steiner, alias André Ruellan, Kurt Dupont, Kurt Vargard et quelques autres, j'ai pris contact avec le Fleuve Noir, j'ai soumis un premier manuscrit au Fleuve Noir, de façon à gagner un peu d'argent, d'abord ben, comme tant que quand j'étais étudiant. Et ce contact s'est très bien passé. Enfin, le premier roman, alors j'ai choisi comme pseudonyme Gilles d'Argir pour deux raisons bien claires. La première, c'est que argir, ça veut dire d'argent en grec. Et d'autre part, il existe sur Mars une plaine d'argir dans l'hémisphère sud, si je me souviens bien. Et où j'ai une immense propriété que j'espère bien aller explorer un de ces jours. Donc j'ai publié en tout 5 romans au Fleuve Noir, une première partie constituant une espèce de saga, un ensemble, et puis autour de la terraformation de Mars. Et puis ensuite, j'ai publié 2 romans plus séparés, dont Le Sceptre du hasard, qui est probablement dans cette série le plus abouti, et où je développe l'idée de la stochastocratie, c'est-à-dire du gouvernement par le hasard, ou plus exactement, du président, enfin du chef suprême, qui est choisi par le hasard. Alors, le malheureux Amar Langdon, si je me souviens du nom de mon personnage, découvre avec horreur qu'il a été choisi pour être le chef suprême. Et évidemment, il prend immédiatement la fuite, ce que j'aurais fait dans les mêmes cas.
Alors, à cette époque, donc, vous écrivez à la fois des romans et des nouvelles. Est-ce que ce serait une mauvaise analyse de dire que... il me semble percevoir que vos nouvelles... ont une dimension esthétique, fonctionnent souvent sur l'émotion et sont poétiques et même parfois un petit peu frôlent le surréalisme, mais en tout cas sont très humaines au sens intime. Je pense par exemple à Mémoire vive, Mémoire morte, qui est une nouvelle absolument magnifique.
Oui, qui est beaucoup plus récente.
Qui est beaucoup plus récente, mais cette caractéristique, on l'a trouvée déjà dans les premières nouvelles. Et des romans qui me semble souvent être d'abord réfléchir aux questions de politique et de pouvoir et même de manipulation avec une action de grande envergure, une ambition, une complexité narrative importante et avec un côté beaucoup plus sombre et plus pessimiste qui apparaît aussi. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que...
Oui, enfin bon, mon seul vrai... Enfin, je ne mésestime en aucune manière mes romans du Fleuve Noir. Enfin, disons que mon roman le plus ambitieux, ça a été Les Seigneurs de la Guerre, que j'ai mis 6 ou 7 ans à écrire. Enfin, je m'étends un peu là-dessus dans une préface à la toute récente réédition au livre de poche de Seigneurs de la Guerre. Ce qui m'a d'ailleurs vacciné contre l'écriture d'autres romans par la suite. Pourquoi j'ai mis aussi longtemps? C'est parce que j'avais des missions. J'ai fait des missions un peu partout en Europe, au Maghreb, enfin, etc. Donc, j'étais obligé de m'arrêter pour faire autre chose. Donc, c'était très pénible de revenir sur un manuscrit. Mon ami John Brunner me disait que s'il abandonnait 2 jours un manuscrit qu'il était en train d'écrire, il le foutait à la poubelle parce qu'il était incapable de reprendre. Moi, j'arrêtais pendant 3 mois, 4 mois, puis je m'efforçais de reprendre. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours préféré le genre de la nouvelle, car la nouvelle est bien un genre distinct du genre du roman. Parce que ça peut se faire sur des périodes plus courtes et donc être plus ramassé. Enfin, de façon générale, même comme lecteur, j'aime beaucoup les nouvelles. Ça m'a amené à faire quelques anthologies. Je regrette profondément qu'en France, la nouvelle soit un genre un peu déconsidéré. Enfin, c'est pas considéré comme un genre très sérieux, alors qu'il est beaucoup plus difficile d'écrire une bonne nouvelle que d'écrire un roman passable.
Et en parlant de la grande anthologie, on s'aperçoit à quel point, d'ailleurs, le troisième personnage apparaît tout de suite en tant que Gérard Klein, éditeur, puisque je disais que dans votre activité d'auteur, Il y a des essais mémorables qui ont vraiment marqué l'histoire de l'analyse du genre et du genre de la science-fiction et de ses relations avec la société sous différents angles. Malaise dans la science-fiction, Trams et Moirets, science-fiction et psychanalyse, mais il y a surtout, et elles ont l'avantage d'être accessibles en ligne, toutes les préfaces d'un grand nombre d'ouvrages qui sont ben, d'abord la grande anthologie de la science-fiction, cette mémorable anthologie dont les volumes s'appellent Histoire 2, vous les connaissez forcément. Des préfaces qui ont été mises en ligne par les 42, qui sont oui. accessibles assez facilement
Tout à fait,
et oui. qui n'ont pas pris une ride. Et ça, c'est absolument extraordinaire de lire ces préfaces. Peu importe quand elles ont été écrites, elles ont une force et une intensité qui sont troublantes. Est-ce qu'il vous arrive de les relire ?
Oui, ça m'arrive de temps en temps. En règle générale, j'aime pas trop me relire. Mais enfin, quand il y a prescription, j'y arrive. Oui, alors je vais revenir sur la grande anthologie. Parce que là, je ne suis pas, et de loin, le seul auteur de la grande anthologie de la science-fiction. Nous étions trois. Nous étions même quatre au départ. La toute première idée est venue de Jacques Goimard, qui a convaincu le directeur de l'époque du livre de poche, je connais, enfin, dont le nom m'échappe, excusez-moi, enfin, c'est pas très grave, et qui a convaincu de ce projet. Ce directeur nous a signé un contrat et on a commencé donc à travailler à quatre, Jacques Goimard, deux maîtres Ioakimidis, Alain Doremieux et moi-même. On avait tous un peu une fonction là-dedans. Bon, Goimard donc avait été un peu l'initiateur. Il a été en grande partie l'organisateur par volume, et on a été obligé de le freiner parce qu'à l'intérieur des volumes, il poussait l'organisation avec un soin obsessionnel un peu excessif. Doremieux était au départ indispensable pour l'accès aux agents littéraires, enfin, et aux détenteurs des textes, puis aussi pour sa connaissance du genre. De Maître Ioakimidis, qui vivait en Suisse, avait une immense collection d'anthologies américaines et anglaises en particulier, dans laquelle nous avons abondamment puisé. J'espère qu'on les lui a tous rendus. Il était très inquiet à cette idée, mais enfin, ça nous a énormément aidés. Bon, moi, je lisais l'anglais, enfin, et je savais faire 2-3 bricoles, donc j'étais... Alors, ça a duré très, 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 très longtemps, parce qu'une fois qu'on a eu défini des sommaires, etc., la direction du livre de poche avait changé, et le directeur suivant n'était plus du tout enthousiaste à l'idée de faire cette anthologie. Il y a même eu un sérieux problème pour que les avaloirs qui avaient été prévus par le contrat nous soient versés. Enfin, finalement, ça a été le cas. Et finalement, ces anthologies sont parues au livre de poche, dans le scepticisme général. Ça a été un succès phénoménal. Les volumes se sont vendus entre 140 000 pour les premiers et les plus, et 40 000 pour les tout derniers et les moins bien vendus, ce qui, même à l'époque et pour le livre de poche, était un succès absolument gigantesque.
Alors 36 volumes rien que pour la première collection, voilà, qui est la partie américaine, qui démarre en 1974.
3 fois 12. Oui, on a dû commencer à publier en 1974. Alors, initialement, on nous avait commandé une série de 12, mais prudent, on avait accumulé les fiches pour pouvoir donner des suites à ce qu'on a fait.
Donc, un point d'entrée via la nouvelle vers tout ce qui bouillonne à cette période-là du côté des États-Unis. Mais on est en train de commencer à rencontrer Gérard Klein, éditeur, dont une des actions les plus marquantes, et probablement celle que vous connaissez le mieux, a été de créer chez Robert Laffont, dès 1969, donc avant ce dont nous étions en train de parler, la prestigieuse et magnifique collection Ailleurs et Demain, que nous avons tous, enfin, pour ceux qui sont aussi âgés que moi, les merveilleuses couvertures argentées et les ouvrages extraordinaires qu'on y découvrait, ça marque une vie. Je crois que ça a marqué beaucoup de vie. En tout cas, ça vous a permis de nous faire découvrir à peu près tous les plus grands auteurs américains. Je vais pas citer tout le monde, mais Philippe K. Dick, par exemple, le roman Ubique, je crois que ça a été parmi vos premières publications. Mais Frank Herbert, Dune. Mais Dan Simmons, Hyperion, plus tard.
Beaucoup plus tard.
Oui. Philippe José Farmer, ça devait être avant.
Farmer, oui.
Le fleuve de l'éternité, par exemple.
Oui, oui, oui.
Mais il y a Robert Silverberg aussi.
Ah oui, Robert Silverberg, j'ai beaucoup publié, qui est devenu un très très grand ami.
Et
John Brunner. John Brunner, qui est un immense écrivain anglais, et d'autres.
Et il y en a des quantités, mais dans les récents, il y a des auteurs tout à fait fascinants aussi, comme Ian Banks.
Oui, oui, tout à fait. Bon,
Vous avez été un découvreur, enfin, ça, vous nous avez permis de, en plus, de les découvrir directement par leurs œuvres majeures, parce que je pensais à un auteur comme Silverberg. Certains de ses auteurs ont été extrêmement prolifiques et même en sachant que ce sont des grands auteurs, j'imagine que parmi les œuvres disponibles aux États-Unis, si vous en piochez une au hasard sur les 130, vous n'êtes pas sûr de trouver, ou 150, je sais, il y en a une quantité impressionnante, vous n'êtes pas sûr de découvrir tout de suite les œuvres les plus magistrales. Et vous avez fait ce travail de défrichage pour nous, qui consistait aussi à sélectionner celles qui étaient les plus fortes et les plus puissantes, celles qui marquent l'histoire du genre. Alors, j'ai envie de vous poser une question, si vous voulez bien. C'était quoi vos critères? Qu'est-ce que vous considériez comme l'aspect majeur qui faisait une bonne œuvre? Est-ce que c'est l'ampleur et la force du projet, du propos? Est-ce qu'il y avait un critère global?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de critère dans ce genre de choses. Il y a un critère, ça m'intéressait, ça me plaisait, je sentais que ça avait de la force ou non. C'est tout, c'est le seul critère. Alors, je reviendrai, si je n'oublie pas, dans l'intervalle, un petit peu là-dessus, mais je veux d'abord rétablir la chronologie, parce que c'est bien avec le livre de poche quand ça a commencé, parlons pas du fleuve noir, mais c'est en 1966 que nous avons signé les contrats pour la grande anthologie du livre de poche. Et ça n'a commencé à paraître qu'en 1974, donc vous imaginez les quelques avanies et difficultés que nous avons rencontrées. D'ailleurs, en cours de route, nous ne sommes plus retrouvés que trois, Joachim Elis, Guamard et moi, parce que Dorémieux nous a assez lâchement et de façon assez déplaisante, d'ailleurs, abandonnés. Enfin, il a pris...
Au bout de 8 ans, il avait plus
il a pris la galette et il s'est tiré. Et il s'était forcé, ça c'est un des travers de Dorémieux qui avait par ailleurs d'immense qualité, de saboter le projet. Et ça, je ne l'ai quand même jamais tout à fait dégéré. Mais enfin, on a réussi quand même à les faire publier. Donc, ça a commencé bien avant Il y aurait demain. En 69, je rencontre Robert Laffont, bon, les détails sont plus ou moins connus, qui me propose de réaliser la collection que je souhaitais voir paraître depuis longtemps. Et il se passe quand même ceci, que je lui dis, bah oui, c'est très bien de faire cette collection. Maintenant, moi, je suis très pris. Il faut trouver quelqu'un qui s'en occupe. Et à ce moment-là, la fond me regarde et me dit, ah ben non, c'est vous, je ne fais pas. Donc, je me suis trouvé piégé. Alors, donc, si je reviens sur le choix... critères, non. Dans le domaine de l'édition, il faut tout faire au feeling, au sentiment. Alors, il s'est passé une chose assez marrante. Quand j'étais éditeur chez Laffont, un beau jour, deux cadres supérieurs habillés de noir et cravatés, enfin, etc., sont venus me voir dans l'intention justement de me soutirer les procédures secrètes, les critères mystérieux qui me permettaient de l'avoir de temps en temps, comme avec Herbert, comme moins, mais quand même comme avec Glick, enfin disons surtout avec Herbert ou Dan Simmons, de me soutirer donc les recettes qui me permettaient d'avoir de tels succès. Quand je lui ai dit qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de critères, que c'est qu'un bouquin me plaisait et que quand il me plaisait, je pensais qu'il pouvait plaire à d'autres, ils sont partis alors très très déçus, très décontenancés. Et je ne sais plus qui, enfin un des patrons de la maison, des années après, m'a reproché mon absence de franchise et d'honnêteté.
Vous voyez comme c'est terrible de poser des questions à Gérard Klein. Donc il y a quand même eu 240 romans, si mes comptes.
Je ne sais pas, je suis pas sûr de savoir compter jusque-là.
Oui. Et parallèlement, la collection Livres de poche science-fiction.
Oui.
Qui, puisque dans un premier temps, cette collection de prestige et ces ouvrages magnifiques, ben, c'était quand même le top du top. Et puis, c'était des ouvrages qui coûtaient cher, concrètement. Ils étaient très beaux. Et après, vous avez eu le souci de faire connaître à un plus large public, de rendre plus accessible
ces œuvres. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est en 1986, Frédéric Dittis, qui dirigeait, J'ai lu, a été appelé à la direction du Livre de poche. Et il a d'ailleurs eu un temps, mais ça ne lui a pas réussi, eu le projet un peu fou de réunir le Livre de poche Hachette et le J'ai lu Flammarion, en disant, bon, l'un est une collection plus populaire, le Livre de poche est plus intellectuel, donc si j'arrive à diriger les deux, ça sera un ensemble parfait. Bon, ça n'a pas du tout marché, parce qu'évidemment, les deux patrons des deux maisons ont poussé des hurlements et ne l'ont pas fait. Mais c'est à ce moment-là que Frédéric Dittis, que je connaissais bien, je l'avais souvent rencontré à côté de Jacques Sadoul chez J'ai lu, et il m'avait publié, ils avaient repris quelques-uns de mes romans, recueil de nouvelles, m'a demandé de recréer, il y en avait une, mais de recréer une collection de science-fiction au Livre de poche. Et bien qu'elle soit moins connue qu'Ailleurs et demain, c'est peut-être la collection dont je suis le plus fier. Parce que dans les 300 ou 400 titres que j'ai publiés, je ne sais pas exactement combien, je crois que j'ai créé, en puisant partout où je pouvais, une bibliothèque de la science-fiction absolument unique. Et c'est souvent, des éditeurs ou des auteurs américains, en considérant la liste de ces deux collections, me disent qu'il n'y a jamais rien eu d'équivalent dans le monde. Mais je suis très très fier de ma collection. Bon, je suis très fier d'ailleurs de moi aussi, je suis très content d'ailleurs de moi, je ne vais pas le dénigrer, mais je suis très fier de ce que j'ai fait au Livre de poche. Et malheureusement, ça va probablement changer maintenant que j'ai quitté, que c'est Audrey Petit qui s'en occupe, enfin qui prend en quelque sorte la succession. Mais la maison, le Livre de poche, une fois Dittis parti, ne s'est jamais beaucoup investi là-dedans. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les directeurs successifs, dont Dominique Gust. Enfin, commercial, la presse, n'en parlons pas. Ils sont jamais, si bien que cette collection, autant j'ai lu. Et puis à la grande époque, Presse Pocket ont été réputées être les collections importante de science-fiction, autant la collection de livres de poche, qui me paraît honnêtement plus riche, n'a pas gagné cette aura. Bon, c'est la vie.
Et le temps passe vite. Je vous propose, parce que j'aimerais bien qu'on en dise un mot, qu'on refasse appel aux prospectivistes, parce que nous venons de parler de science-fiction, on pourrait en parler bien davantage, mais j'ai vu que votre devise était...
L'avenir est mon métier. L'avenir est mon métier.
Non, c'est ça. L'avenir est mon métier, bien sûr. Et j'ai vu aussi que vous disiez que la prospective était plus rigoureuse que la science-fiction. Alors.
Oui, enfin bon, c'est pas la même approche. Bon, j'ai été assez tôt plongé dans la prospective. D'abord à la demande de mon ami de Coufflet. le père du chorégraphe, qui est maintenant malheureusement disparu. Enfin, je ne parle pas du chorégraphe, mais de son père, qui était un grand ami, et qui avait créé le laboratoire de prospective appliquée, dans une lignée. Donc il m'a demandé d'y participer. À la fois puisque j'étais économiste et puisque je savais tout de l'avenir grâce à la science-fiction. Alors après, je suis rentré en contact avec Futurib. Je viens de publier avec avec les gens de Futurib. Je viens de publier d'ailleurs, il y a un numéro qui est en partie consacré aux relations entre prospective et science-fiction. Et j'ai publié l'article de tête qui est sorti en juin, cet été ou juillet. Et si ça vous intéresse, vous trouverez facilement. J'ai créé d'autre part, dans la foulée, le groupe de prospective de la Caisse de dépôt et consignation, et que j'ai continué à conseiller jusqu'en 1987, c'est-à-dire en 1976. Comme le disait Sylvie, j'ai quitté la CEDES pour rentrer chez Lafond, puisque Robert Lafond m'a demandé de le rejoindre, mais je suis resté conseiller de la Caisse de dépôt jusqu'en 1987. Et j'ai été victime, comme d'autres des socialistes, qui, connaissant l'avenir, n'avaient pas besoin de conseils.
Mais justement, moi, je voulais faire appel au prospectiviste pour lui demander comment il voit... Enfin, bon, un prospectiviste s'interroge souvent sur la manière dont la société va évoluer, mais du coup, je pense que... moi, j'aimerais beaucoup que vous nous disiez quel rôle la science-fiction pourrait jouer pour nous aider à réfléchir à l'avenir et quelles sont les thématiques qui vous semblent essentielles maintenant ou dans les années à venir à traiter par la science-fiction. Est-ce que c'est la machine qui nous occupe beaucoup cette année ici aux Utopiales? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes? La biologie, le transhumanisme, les voyages dans l'espace...
Ne me parlez pas de transhumanisme. J'ai tendance à devenir rouge et je finis par éclater. Donc... je ne crois pas qu'on puisse du tout dire dans quelle direction doit aller ou encore moins va aller la science-fiction. La science-fiction, c'est l'œuvre d'écrivains qui sont plus ou moins compétents dans les domaines scientifiques ou parascientifiques qu'ils abordent. On verra bien, ça, je ne vais pas le dire. Alors, bon, la prospective, c'est autre chose. Mais la prospective, elle implique d'abord toujours d'avoir un client, enfin un demandeur particulier, que ce soit une entreprise ou éventuellement une administration. Mais elle ne consiste pas du tout... Ça serait de la futurologie et je récuse la chose. Elle ne consiste pas du tout à décrire les avenirs globaux. Et simplement, quand je, par exemple, travaillais pour EDF, EDF a pu se poser ou se pose encore un certain nombre de questions. Par exemple, quand je travaillais avec eux, une des grandes questions, c'est... avec l'Europe qui était en train de se constituer, quelle est la place d'une société comme EDF, une entreprise publique comme EDF, dans le cadre de l'Europe? En plus, c'est une entreprise de réseau, ce qui est très important. Bon, j'ai un tout petit peu travaillé avec la SNCF. Ça. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire à partir du moment où on a une demande d'exploration de l'avenir? On va essayer d'examiner, d'une part, les tendances lourdes, et d'autre part, ce qui est plus difficile, les possibilités de rupture. Alors, le problème, les ruptures, on peut arriver à les identifier relativement bien, mais il y a une chose qu'on ne sait pas du tout faire, c'est dire quand ça va se passer. Alors, on sait qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un grand changement, mais à quand exactement, on ne sait pas. Alors, après avoir étudié aussi finement qu'on peut ces tendances lourdes et ces possibilités de rupture, on produit un certain nombre de scénarios, pas trop, parce que sans ça, on est vite noyé, 5 ou 6, 8 éventuellement, c'est un maximum. Et alors, il se pose à ce moment-là toujours la question, le client, même très, très compétent, dit oui, d'accord, c'est très bien, vous me proposez 6 scénarios, du pire au meilleur, mais quel est le vrai? Alors que l'art de la prospective, ça consiste justement à ouvrir le champ et pas du tout à le refermer sur une possibilité dont personne ne sait rien et qui serait la bonne. Il y a toute une pédagogie de l'avenir, c'est sa multiplicité. Alors, d'un autre côté, je crois très fondamental, je regrette de ne pas avoir écrit suffisamment là-dessus, sauf dans des préfaces ou des articles, je crois très fondamental pour une société de réfléchir en permanence à ses avenirs. Et si vous me permettez de le dire, j'ai le sentiment qu'en ce moment, dans un pays comme la France en particulier, nous sommes complètement incapables de produire, enfin, je veux dire au niveau des décideurs, de produire des possibles à 10, 20, 30 ans, 50 ans. Alors, je ne vais pas me lancer un cours sur la prospective, mais il ne faut quand même pas jamais perdre de vue que ce n'est pas le nouveau modèle de l'année prochaine qui est important, c'est le fait que pour tout ce qui compte, les durées sont très longues. Une génération d'avions, c'est 50 ans. Une génération de navettes spatiales, j'en parlais hier avec une charmante spécialiste des propulseurs, c'est 30, 40 ou 50 ans. Et une génération de fusées, enfin comme les Ariane, c'est 50, 60 ans. Un réseau ferré, ça dépasse le siècle. Un réseau électrique, de même. Enfin, donc, on est obligé de penser ça aussi long terme que possible. Alors, évidemment, on ne peut pas dire ce qui va arriver, mais il faut bien se comprendre, il faut bien se pénétrer de l'idée qu'on est engagé, qu'on le veuille ou non, dans le très long terme et qu'on ne peut absolument pas se réfugier dans l'après-demain.
Et alors, puisque la science-fiction résonne à long terme et qu'il est question de rupture, vous auriez plutôt envie de voir des réflexions autour d'une restructuration économique? C'était quand même votre point de départ, mais est-ce que c'est la répartition des richesses qui serait la rupture, ou est-ce que c'est l'écologie, l'avenir de la planète, sa viabilité, ou est-ce que c'est la question du travail? Des questions à long terme, on en a pas mal sous le coude.
Oui, enfin, je crois que la plus importante, tu l'as évoquée, enfin, c'est la question écologique. Et c'est bien celle sur laquelle les gouvernements, déclarations mises à part, traînent le plus les pieds. Je pense que toutes les personnes à peu près lucides et compétentes sont d'accord sur le fait, si on continue comme ça, c'est la catastrophe. Mais c'est la catastrophe à un degré que vous n'imaginez pas à l'échéance de la fin du siècle. J'ai relativement peu de chances de voir ça, mais enfin, des enfants qui sont là en ont toutes les chances. Donc il faut absolument, ça c'est le premier problème central. Alors la restructuration économique, je suis dans l'âme un libéral modéré, c'est-à-dire un libéral qui implique un certain nombre de régulations. J'ai contribué à définir quelques-unes de ces régulations. Le travail, et en particulier le remplacement du travail humain par du travail mécanique, c'est aussi un très gros problème. Il ne faut pas se l'exagérer non plus, parce que dans le passé, les ludites ont toujours eu tort. Les ludites, c'était ces artisans anglais qui détruisaient les machines à tisser au début du 19e siècle. Non, le gros problème, et c'est un problème que rencontre la France, mais je ne suis pas compétent pour en parler, c'est celui d'améliorer considérablement la formation des personnes, de façon à ce que, si vous voulez, il n'y a pas d'avenir pour l'humain sans formation, et sans formation poussée. Sans compétences. Il faut avoir des compétences. Et à mesure que les machines se dotent de compétences, ne me parlez pas d'intelligence artificielle, mais de compétences artificielles, à mesure que les machines se dotent de compétences, et ça continuera à grande allure, il faut que les humains se dotent de compétences qui dépassent celles des machines, qu'avec leur petit cerveau faible, etc., mais inventif, terriblement inventif, ils trouvent. Donc ça, la formation a des compétences nouvelles sans cesse, et peut-être toute la vie. Vous savez, moi j'ai changé 3 ou 4 fois de profession, j'ai toujours appris autant que je pouvais, je n'ai jamais été un professionnel, je me considère comme un éternel amateur.
C'est vrai que nous arrivons au bout de notre temps. Je suis désolée, j'espérais vous donner l'occasion de poser quelques questions. On va prendre 3-4 minutes. Si une question vous brûle les lèvres, c'est l'occasion de la poser à Gérard Klein. Elle sera très courte de toute façon, mais je pense que Gérard sera heureux d'y répondre. Mais je ne sais même pas si nous avons des micros à portée de main. Et puis, désolé, mais on voit très mal la salle ici. On a les spots dans les yeux. Et
Ça ne marche pas, ça ? Si, ça marche.
Si, on entend.
Gérard, tu pourrais nous dire deux mots, c'est Patrick. Tu pourrais nous dire deux mots sur l'avenir de Ailleurs et Demain ?
Alors, Ailleurs et Demain est en sommeil. Ailleurs et Demain est en sommeil. Pour une triste raison, c'est que le public de la science-fiction dans ce pays, mais pas seulement ici, c'est également vrai de façon peut-être un peu moins sensible dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier, le public de la science-fiction, donc les acheteurs de livres, a été divisé en gros par 10 depuis le milieu des années 90. Je suis des statistiques assez précises. Et donc bien divisé par 10, c'est-à-dire que là, on pouvait espérer vendre 8, 10, 20 000 exemplaires. On vend aujourd'hui péniblement 2 000. Ça a une conséquence, en ce qui concerne Ailleurs et Demain, c'est que je ne peux plus du tout publier de traduction. Il y a beaucoup d'auteurs, dont certains qui ont défilé ici, que j'aurais aimé publier. Bon, je ne peux pas publier de traduction. Plus de ça, il y a eu des changements chez Lafon, enfin, etc. Cela dit, je ne désespère pas. La collection n'est pas arrêtée. Mon contrat tient toujours. Et je ne désespère pas de pouvoir publier à l'avenir des auteurs, parce que des auteurs français où le coût de la traduction est sensiblement plus faible. J'attends au moins 2 manuscrits. Bon, je ne citerai pas les auteurs pour épargner leur modestie, mais enfin, je compte beaucoup sur eux et sur ces textes. Je ne pouvais pas les publier, je m'arrangerais pour qu'ils le soient ailleurs, donc ils n'ont aucune inquiétude à se faire là-dessus. Mais donc, Ailleurs et Demain est en sommeil. Bon, ça me permet aussi de me reposer un peu.
Mais en tout cas, on va vous permettre d'aller manger et de vous reposer, et à vous aussi si vous n'avez pas encore mangé. Mais nous vous allez retrouver, je pense que tu es dans l'après-midi sans doute, en dédicace.
Je vais en dédicace là.
À quelle heure
que Tout de suite.
Vous pouvez retrouver dans l'espace librairie les ouvrages et publications de Gérard Klein. Merci à lui pour ce beau moment passé et cette discussion.